parce que nous sommes pleins d'émotions. Vous savez que il y avait une information qui nous a visités, c'était de découvrir la réalité des enfants talibés au Sénégal. Des enfants qui passent toute leur vie loin de leurs parents, en train de mendier dans la rue et en train de mémoriser tout le Coran en arabe qu'ils ne comprennent absolument pas un mot. Et que nous avons voulu juste se mettre à côté de Dieu qui souffre de voir ces enfants-là. Et quand on avait découvert cette réalité, on s'est dit que Dieu, il voit tout ça dans sa vie d'éternité et qu'il pleure et que nous ne savions pas combien il était dans la douleur et qu'on voulait juste partager ne serait-ce que 0,0001% de sa peine, de sa douleur dans notre prière. Et que quand nous avons prié pendant 3 ans, étonnamment, c'est nous que le Seigneur a envoyé rencontrer ces enfants talibés. Et que cette année, c'était notre 5e année et notre 9e camp où on essaie de partager la parole de vie. Et que ce que nous voyons, c'est que combien cette parole est puissante, combien cette parole d'amour et de puissance peut transformer chaque vie qui reçoit cette parole. Et que on s'est dit hier, en faisant notre bilan, que la société ne s'évolue pas comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un temps de palier, qu'il y a des éléments qui se rassemblent pour qu'il y ait un changement soudain. Et que cette année, c'était comme si nous avons rencontré ce moment de croissance soudaine, mais qui a été préparé par les camps précédents. Donc, en un mot, je peux vous dire que nous avons eu le baptême de 12 enfants qui étaient 100% musulmans, qui étaient dans la rue, qui étaient des mendiants, et qu'ils viennent de très loin. Donc, ce sont des choses qu'on voit tout le temps en France, mais notre émotion était tellement grande. Et il y avait plus de 20 enfants qui voulaient être baptisés. Mais quand même, l'église qui est naissante au Sénégal était très vigilante parce qu'il ne voulait pas prendre tous les enfants qui voulaient. Il voulait quand même avertir leur famille musulmane et tout, pour ne pas donner l'impression de travailler dans le dos de ces familles musulmanes. Donc, ils ont été très vigilants en choisissant les 12 enfants qui avaient déjà exprimé le désir d'être baptisés. Et que nous avons fait 2 semaines de parole de vie chaque jour, 4 heures. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la qualité d'écoute. Au bout de 2 heures, on proposait de finir et qu'ils ne voulaient pas. 3 heures, ils voulaient aller encore plus loin, 4 heures. Et que nous avions 4 classes, des enfants petits et jusqu'aux grands. Et que c'était vraiment une joie et que on n'a jamais vu, on va dire que c'était le meilleur camp. Mais je pense que désormais, chaque année, on va dire la même chose. Parce que ces enfants sont tellement mûrs et ils aiment profondément Seigneur Jésus. Avant, c'était présenter Seigneur Jésus et évangéliser. Mais maintenant, ils sont tellement mûrs et grands et qu'ils sont devenus missionnaires eux-mêmes. Et que nous avons pu encore écouter le témoignage d'un petit groupe qui est allé jusqu'en Guinée-Bissau, dans leur village d'origine, pour partager leur expérience. Et que nous n'avons jamais appris qu'il fallait partir maintenant et partager ce qu'ils ont reçu. Mais c'est tellement naturel quand il y a la puissance de la vie qui entre et cet amour puissant qui transforme la personne. Ils ne peuvent pas rester en place. Et qu'ils se sont organisés, ils étaient partis. Et ils avaient rencontré vraiment la gloire de Dieu et aussi de la difficulté. Mais tout ça, c'est en train de les former, les transformer, les faire grandir. Donc gloire à Dieu et merci beaucoup à l'Église qui nous soutient dans la prière. Et que vraiment, on se sent soutenu tous les jours de notre séjour là-bas. Et que c'est vraiment cette prière-là qui est en train de construire le royaume de Dieu là-bas, très loin. Donc un jour, peut-être vous viendrez les rencontrer. Oui, merci beaucoup pour la prière.
était pleine à craquer. Mais ce qui m'avait le plus impressionné, c'est que les gens continuaient à venir. Et même, il n'y avait pas assez de chaises. Ils étaient déjà 500. Mais les gens continuaient à affluer par les portes. Et donc les gens, ils étaient assis par terre, on cherchait partout à s'asseoir. Et les gens, c'est comme si les gens, tout le monde avait tellement envie d'être dans cet endroit, dans cette église-là. Et ça m'avait impressionné de voir cette soif pour Dieu. Et il faut dire que cette église de 500-600 personnes était une église parmi des milliers et des milliers à 10 de 500 personnes. Il y en a partout de grandes églises. Et aussi dans ce pays-là, à 3 heures du matin, dimanche matin, t'es réveillé par les haut-parleurs. Et là, il y a les chants qui résonnent dans toute la ville d'Addis. Addis Abeba, ça veut dire la fleur nouvelle. Et c'est des moines qui chantent les psaumes, les moines orthodoxes et les prêtres orthodoxes. Et ils chantent depuis les églises orthodoxes, parce que c'est un pays orthodoxe depuis... C'est une longue histoire, c'est un des seuls pays, je pense que c'est le seul pays d'Afrique, où il y a autant d'histoires, où ils tracent leur héritage spirituel depuis Salomon. Et la reine de Sheba qui est venue, et après l'Éthiopien qui s'est converti dans le livre d'Actes. Et donc ça crée une longue racine spirituelle dans ce pays. Et l'église orthodoxe est très très en place. Et là ils chantent à 3 heures du matin. C'était du 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. C'était là les psaumes. Et ils chantent dans une langue guise. C'est la langue spirituelle un peu de l'église orthodoxe. Donc tu ne comprends pas. Mais j'étais émerveillé, je suis allé sur mon petit balcon là où j'étais, et c'est incroyable, tu vois, ce chant qui s'élève sur toute une ville de 4 millions de personnes. Mais c'est pas juste dans les grandes villes, c'est aussi partout dans les villages. Il y a une tradition d'élever les psaumes dans ce pays, incroyable, incroyable. Donc j'étais vraiment, vraiment très, très touché. Et il faut dire aussi que c'est un moment tellement critique pour ce pays. Depuis 6 mois, ils ont élu un nouveau premier ministre. Il s'appelle Dr. J'oublie son nom de famille, mais Dr. C'est un nom arabe parce que son papa est musulman et sa mère chrétienne. Et lui, il est en train de changer le pays. Il y a 20 ans, je suis allé en Éthiopie pour la première fois, il y a 20 ans. Et c'était là où il venait de déclarer la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et c'était une guerre terrible, une guerre de tranchées, une guerre de sang, de brutalité. Et cette fois, c'était 20 ans après cette déclaration, mais il venait de déclarer la trêve, la fin de cette guerre. Et c'était l'œuvre de ce premier ministre. Il a invité le premier ministre d'Érythrée, ils ont fait la réconciliation. Il a libéré 2000 prisonniers politiques. Il a fait venir les partis politiques de partout. Il veut ouvrir l'Éthiopie à une vraie démocratie. Il a réconcilié l'église orthodoxe qui avait deux papes. Il a fait venir les deux papes. Allez, décidez-vous qui est le vrai pape. Et donc ça, en 6 mois, c'est extraordinaire ce qui se passe. Extraordinaire. Il est en train d'éradiquer la corruption dans le pays. Il est en train d'attaquer les intérêts privés, les monopoles, les mafias. Et donc les gens veulent l'assassiner. Ils ont déjà largué des grenades dans ces rassemblements. Et donc il y a tous les chrétiens qui prient. Parce que ce gars, il est de l'église Mulu Wongol. Ça veut dire l'église pleine évangile. C'est un gars né de nouveau qui dirige ce pays. Et c'est vraiment quelqu'un qui transforme ce pays en ce moment. Si vous voulez vous informer, vous pouvez aller sur Internet, Premier ministre d'Éthiopie. Et donc c'est un temps critique pour ce pays. Quand j'étais là, toute l'église priait pour lui, parce qu'il voit une opportunité. Il y a 108 millions d'Éthiopiens, quand même beaucoup, hein. 108 millions. Et il y a une croissance de la population énorme. Et quand je voyais ça, je dis, mais Seigneur, quel avenir pour l'Éthiopie? Comment est-ce qu'on va pourvoir aux emplois pour tous ces enfants? Et il y a les gens tellement qualifiés, les ingénieurs. J'étais avec des filles. J'étais tellement impressionné par des jeunes filles de 21 ans qui étudiaient la physique, la chimie, la construction, toutes sortes, la génie civil, toutes sortes de choses. Mais elles trouvent pas de boulot après. Il faut connaître quelqu'un, il faut être pistonné. C'est incroyable, 108 millions. Donc ce pays, ça peut basculer dans l'anarchie ou ça peut basculer vraiment dans un nouveau départ. Donc priez vraiment pour le Premier ministre et que pour tout le travail. Et là encore, quel privilège. Comme Gérane avec ces jeunes-là, c'était pour moi un retour en Éthiopie. Tu vois, je me suis consacré à l'église ici pendant quelques années. Et c'était un peu une discipline où Dieu dit, allez Robert, tu ne voyages plus, tu es là. Et là, il y a une année, deux années, il m'a libéré, hein, je l'avais annoncé ici, tu vas être de nouveau une lumière pour les nations. Mais ça prend du temps, et c'était mon premier voyage depuis tellement longtemps. Retourner en Éthiopie, c'est un pays où j'avais, il y a 6 ans, 5 ans, waouh, avec notre mission, on avait tellement vu des choses incroyables. Mais est-ce que c'était toujours là? Est-ce que j'avais toujours quelque chose à faire? Donc est-ce que je pouvais toujours supporter de voyager? Est-ce que je pouvais toujours supporter d'être là en mission? Mon corps a quand même vieilli. Et bon, Dieu était bon. Il m'a donné l'énergie de faire des séminaires comme à Gérane. Les gens, ils ont tellement soif de la parole. Tu sais, en France, après 1 heure, on a peur que les gens vont s'endormir. Mais là-bas, après 2 heures, ils demandent encore plus. Encore plus. Et c'est une vraie marathon. Hein. Moi, quand tu es debout pour 4 heures, je sentais dans mes jambes. Et je dis, heureusement que moi, je cours, parce que je ne sais pas comment quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va faire ça. Honnêtement, c'est très dur. Même physiquement, juste pressé pour 4 heures. Et aussi de garder les gens animés et tout ça. Mais c'était 7 jours remplis d'enseignements. Oui. D'avoir 100 jeunes qui se consacrent à la mission quand même. Et c'était leur jeunesse, 17 ans à 25 ans, j'avais 17 ans. Et quand j'ai vu les jeunes de 17 ans qui priaient, qui lisaient la Bible pendant 4 heures, je dis, mais quand même, qui est pauvre? Est-ce que c'est l'Éthiopie ou la France? Parce que nous, on a perdu un peu notre jeunesse. Et quand je vois leur sainteté, leur désir pour la pureté, le mariage, tout ça. Tu vois des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont consacrés à la pureté aussi et qui veulent servir Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui est un signe du réveil. Tu es dans un pays aussi où le Saint-Esprit est très fort. Tu sais, nous, on a des quoi, on parle en langue, on fait des prières et tout ça. Et c'est bien, hein, je ne méprise pas de tout ça. Mais là-bas, il y a comme une intensité beaucoup plus grande. Tu as des jeunes de 17 ans qui ouvrent leur bouche pour prier. Oh, tu tressailles. Tu sens la présence de Dieu. Et voilà, c'est le privilège d'être un pays dans le réveil. Et moi, j'ai essayé de les aider à développer un programme missionnaire. Et c'est super de les voir. Cette semaine, ils sont partis dans le nord, vers les peuples non atteints. Mais ils le font. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Oh, on va juste y aller, on va prêcher l'évangile. Et là, ils voient beaucoup de musulmans qui se convertissent en ce moment, de centaines. Et ce qui se passe, c'est que parce qu'ils sont un peu pentecôtistes, très pentecôtistes même, ils ne parlent pas doctrine et tout ça. Ils viennent, ils prient pour la guérison et ils prient que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et là, quand les musulmans, ils sont guéris, « Ah, Jésus, Jésus guérit !» Ils prient au nom de Jésus. Après, ils disent, « Mais il faut être baptisé. » Ils sont baptisés. Après, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et donc, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et donc, quand un musulman parle en langue et il est baptisé, après, tu laisses le Saint-Esprit construire sa culture. Et donc, ils ont beaucoup des gens qui restent, entre guillemets, musulmans dans leur culture, mais ils adorent Jésus. Et c'est incroyable, cette réalité. Pour nous, c'est un peu choquant. Mais je parlais avec les gens où c'est normal maintenant d'aller évangéliser les musulmans, de les voir guéris, baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et ça crée des mouvements où il y a des mosquées où les gens prient en langue, où ils adorent Jésus maintenant. C'est incroyable et c'est une énorme espérance pour nous. Parce qu'on parle souvent. Et j'ai parlé avec un gars et il me disait, tu sais Robert, ici en Éthiopie, tous les musulmans, ils savent que Jésus est Seigneur. Et il dit, ils savent, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent que ça marche. Ils sont spirituels. Il dit, ça ne marche pas leur truc. Mais ils savent que Jésus marche. Et donc, ils ont tellement peur, parce qu'ils savent que presque beaucoup de musulmans, ils veulent suivre Jésus, parce que ça marche. Et parce qu'ils ont ce réveil, c'est ça. Ils ont ces côtés très, très pratiques. Jésus guérit. Jésus, il te donne la joie. Jésus te pardonne. Et ils expérimentent ça. Ils ne sont pas dans leur matérialisme et tout ça. Ils ont besoin de ça et ça marche. Et donc, même il y a des articles dans les journaux où les chefs musulmans, ils râlent. Ils disent, les pentecôtistes sont en train de voler tous nos adeptes. Alléluia. Qu'on écrive des articles comme ça en France, ça serait bien. Mais c'est tellement encourageant, ce pays. Mais prie pour ce pays parce que il y a encore beaucoup à faire au niveau du développement. C'est un pays pauvre quand même. Et aussi, avec une si grande population et avec tout ce changement politique, soit ça va exploser, soit ça va aller. Et prie que le gars ne soit pas assassiné. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, que la main de Dieu soit sur lui. Il faut imaginer que le pays est dirigé par un gars qui parle en langue, qui est pentecôtiste, qui est Mulu Wangul, tout ça. Mais il connaît bien les musulmans parce que son papa est musulman. Je pense que c'est Ahmed, son nom de famille. C'est Abiy Ahmed. Et donc voilà. Dimanche dernier, il y avait 500 personnes avec les gens qui venaient. Et je reviens en France, et c'est la réalité de notre église en France, dans nos églises françaises. Et je ne méprise pas de tout ça. C'est notre réalité missionnaire. Mais peut-être un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être Dieu doit remuer la France un peu. Peut-être il faut avoir plus de souffrance pour les gens, moins d'aisance et tout ça. Mais, allez, je vais vous donner un texte pour mon retour. C'est en acte. Je vais quand même parler de l'Éthiopie. Et donc, si nous pouvons voir dans le livre d'Actes, et Actes chapitre 8. Et c'est l'histoire de Philippe. Et ça commence en chapitre 5. Actes 8, verset 5. Et c'est super parce que tu vois en verset 6, il y a Philippe qui est un évangéliste. Et voilà, les foules d'un commun accord s'attacher à ce que disait Philippe. Hein, c'est magnifique quand tu as des foules. Des foules, c'est ce que j'ai vécu en Éthiopie, les foules. Voilà, les foules qui sont là. Et c'est aussi le réveil. Hein. On voit le Saint-Esprit est venu, l'Église est naissante, il y a tout l'enthousiasme, il y a la réalité de la force, de la puissance, du dynamisme du Saint-Esprit. Et donc, il y a les foules. Et après les foules, il y a les... Et il y a les baptêmes. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Il y a les foules qui écoutent. Après, il y a des baptêmes. Magnifique. Et après, tu as verset 12. Hein? Ça, c'est le... Il fut baptisé. Et après, tu as les gens qui viennent et ils reçoivent le Saint-Esprit, verset 15. Quand les apôtres prient pour eux, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et verset 13, il y a les miracles. Il y avait les gens qui croyaient, même les magiciens, ils ont été baptisés, ils ne quittaient plus Philippe. Et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc c'est magnifique, tu as des foules, tu as les baptêmes, tu as des miracles, tu as l'effusion du Saint-Esprit. Bienvenue en Éthiopie. Bienvenue en Éthiopie. Mais après, au milieu de tout cela, au milieu de tout ça, waouh, je vais y rester ici. Verset 26, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Allez, encore plus de baptême, encore plus de foule, encore plus d'effusion du Saint-Esprit. Et Il dit, allez, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Prendre un chemin désert. Et là, je pense que ça a dû être difficile pour Philippe, parce qu'il était tellement entouré par les foules, les miracles, les baptêmes. Et Dieu lui demandait de prendre un chemin désert. Et là, il faut du courage. Lève-toi. Lève-toi. Va. Prends ce chemin désert. Donc ce matin, quand je préparais ce message, j'avais juste une question que je voulais vous poser. Est-ce que tu es sur un chemin désert? C'est comme si Dieu voulait te poser cette question. Est-ce que tu es sur un chemin désert? Je pense que nous avons tous des moments dans nos vies où on est sur un chemin désert. Et quel est ton chemin désert? Quelquefois, c'est relationnel. On est dans un désert relationnel. Même si on est avec les gens, on se sent seul. Il y a la solitude. Quelquefois, on se sent vraiment seul. Et c'est un désert relationnel. C'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France, on souffre de ça. Même si on est entouré, on est dans un désert personnel, un désert relationnel. Quelquefois, il y a plusieurs déserts. Il y a aussi un désert financier, quelquefois. Comment je vais vivre? C'est difficile ici. Et même pour Philippe, hein, je pense que quand il y a les foules et tout ça, il y a beaucoup de dîmes. Et tout d'un coup, il devait partir, vivre quelque part où personne ne le connaissait. Il ne connaissait pas son email. Mais il y a quelquefois, Dieu te demande de faire un pas de foi vers le désert. De faire un pas de foi vers le désert. Je pense que tous ceux qui travaillent en France connaissent ce pas de foi. Parce que ce n'est pas facile de travailler dans ce pays, qui est matériellement bien, on a tout, mais quelquefois c'est vraiment le désert spirituel. C'est vraiment... Et donc, d'un côté, on est tous des Philippes sur le chemin désert. Il y a les déserts financiers, un désert spirituel. Quelquefois c'est personnel, quelquefois je suis sec. On entend parler des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, voilà, tout feu, tout flamme, mais tu peux dire, mais moi, je suis sec. Et je ne sais pas pourquoi, j'essaie de bien vivre avec Dieu, mais je suis sec. Bon, il y a quelquefois des chemins déserts. Il faut faire ça uniquement par la foi. Moi, j'ai vécu des moments comme ça, que ce n'est pas parce que j'ai péché. Bon, un petit peu peut-être, mais pas pour être exclu de la présence de Dieu et tout ça. Et tu fais ton petit chemin de vie, mais Dieu semble tellement loin. Tu vas lire l'histoire de beaucoup de grands saints, Mère Thérèse. C'est choquant de lire son autobiographie parce qu'elle parle de ces moments de désert où elle dit, mais Dieu, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es là? Et tu dis, mais elle était un saint. Et elle parle comme ça, elle est une sainte, elle parle comme ça. Mais tu vois, tu lis Saint Jean de la Croix, tu lis beaucoup d'hommes, il y a des moments de désert spirituel. Il faut s'accrocher. Il y a un désert spirituel. Quelquefois, il y a un désert dans le ministère. Un désert dans le ministère, on dit, mais il n'y a rien qui se passe. Seigneur, il n'y a rien qui se passe, j'ai tellement semé, mais il n'y a rien. On est sur ce chemin désert. Et après, il y a le désert dans notre travail. Il n'y a pas d'opportunité qui s'ouvre. Les gens ne nous parlent pas, on ne sourit pas. Tu dis, voilà, il faut être bien abrité, là, il faut apporter de l'eau quand je vais travailler ce matin parce que c'est un peu sec ici. Et donc on a tous nos déserts et où est ton désert et est-ce que tu es sur un chemin désert? Donc ça peut être une mauvaise nouvelle, hein. Je dis, oh mais je suis sur ce chemin désert. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une bonne nouvelle. sur ce chemin désert, un Éthiopien t'attend. D'accord ? Faut prendre ça par la foi. Sur ce chemin désert, un Éthiopien t'attend. Une personne ou une situation préparée par Dieu t'attend. Persévère. Persévère. Au bout de chaque chemin désert, surtout si Dieu t'a demandé de le prendre, il y a un Éthiopien qui t'attend. Il y a une situation ou une personne préparée par Dieu. Surtout, quand on est dans le désert, Dieu prépare quelque chose. Et donc, on va voir ce qui se passe. Il se leva et partit, verset 27. Et voici un Éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. Et donc, pour moi, je peux dire, bon, chacun en a nos chemins déserts, mais pour moi, c'est la France. Depuis 35 ans, j'attends mon Éthiopien. J'attends que quelque chose, que je rencontre des situations préparées. Et je pense prophétiquement que Dieu prépare la France en ce moment. Dieu prépare la France comme il a préparé cet Éthiopien. Et peut-être sur votre chemin, il prépare vos voisins, il prépare vos collègues de travail, il prépare des gens à vous rencontrer. Dieu, il nous a devancés, il avait devancé Philippe et il nous devance parce qu'il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose pour la France en ce moment. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cet Éthiopien, quelques caractéristiques. La première chose, c'est qu'il lisait la prophétie d'Ésaïe. Tu imagines, tu es dans le désert et tout d'un coup, tu tombes sur quelqu'un qui est préparé. Et donc, l'Éthiopien, il lisait. Il y a beaucoup de gens autour de nous en ce moment. Ils ne lisent pas forcément le prophète Ésaïe. Mais il a un intérêt spirituel en France, incroyable. Peut-être ils ont lu un livre de Frédéric Lenoir sur Spinoza, ou peut-être ils ont vu une émission à la télé sur l'hypnotisme, ou ils ont vu une sophrologie, pensée positive. Non, c'est vrai, c'est un peu, on patauge dans le nouvel âge, mais il y a quand même un intérêt. Les gens y cherchent. Peut-être ils ont vu une émission à la télé, Stéphane Bern, Jésus, qui est Jésus. Moi, j'ai vu ça il y a quelques semaines à la télé. J'étais choqué, Stéphane Bern, France 2, qui est Jésus. Et c'était pas négatif comme émission. Et peut-être ils ont entendu parler de la comédie musicale Jésus, qui a quand même sillonné toute la France, qui a été à Paris. Et ce sont des choses qui n'ont pas été organisées par des chrétiens. C'est des choses de la société où Dieu prépare la France. Dieu prépare autour de nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et sur notre chemin désert, il ne faut pas être focalisé sur nos problèmes. Oh, c'est dur la France, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il faut s'attendre à rencontrer l'Éthiopien. Il faut s'attendre à rencontrer l'Éthiopien. Parce qu'il est préparé. Après, il a besoin de comprendre. Verset Philippe, il avance, il entendit tout ça, et il avance, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Non, premièrement, comprends-tu ce que tu lis? Tu sais, les gens, ils ont une soif spirituelle sans aucune compréhension. Tu sais, ils sont happés à droite et à gauche, un grand mélange, une soupe avec beaucoup de légumes, mais ils ne savent pas ce qui est vraiment bon à manger. Et je pense qu'ils ont besoin de comprendre. Et donc nous, on est là pour aider les gens à comprendre. Parce que les gens sont sans compréhension. Et ils ont une soif spirituelle, mais dans l'ignorance, sans compréhension des vraies valeurs, la notion du péché, la notion de sainteté, la notion de Jésus-Christ et l'Évangile. Et après, il dit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide ? Et donc ça, c'est la troisième chose. Sois un guide. Sois un guide pour quelqu'un. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage ? Vous êtes sur un chemin désert peut-être, mais cherchez sur ce chemin à être un guide pour quelqu'un. Parce que les gens cherchent à être guidés en ce moment. Ils cherchent vraiment à être guidés. Et est-ce qu'ils vont trouver de bons guides ? Est-ce qu'on va être tellement centré sur nous-mêmes, centré sur notre Église, sur nos vaches sacrées, quoi, qu'on n'arrive pas à être un guide pour quelqu'un d'autre ? Et je pense qu'il faut chercher des contextes où on peut guider les gens. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent ici un dimanche, il faut aller sur le chemin désert, il faut être ailleurs. Là, le chemin désert, ce n'est pas l'Église, le chemin désert, c'est au travail, c'est dans la société. Et c'est là où tu vas rencontrer des gens. Tu vas à la rencontre. Tu ne l'accueilles pas. Tu vas à la rencontre des gens. Donc il faut qu'on trouve des contextes de rencontre. N'importe quel contexte. Là où tu rencontres des gens. Et les gens qui s'intéressent, qui sont préparés. Et donc, est-ce que je peux être un guide pour quelqu'un ? Après, il y a un autre attribut là. Il est en train de lire le passage. Et toujours le verset 31, il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. J'aime beaucoup ça. Accepter les invitations. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est souvent invité quelque part ? Moi, j'aime bien les invitations. Je pense que les Français sont assez bien pour inviter. Inviter pour l'apéro. Nos voisins, l'autre jour, malheureusement, on n'est pas là. Mais ils nous invitent. On n'a pas besoin de faire d'évangélisation. Eux, ils ont mis l'autre jour une petite traité dans notre boîte à lettres. On aimerait vous inviter pour mieux vous connaître, les voisins. Voilà, on va boire le pastis ensemble. Alléluia! Est-ce qu'on est d'accord d'accepter des invitations? Ou est-ce que nous, on est... On ne va pas chez les gens. Nous, on est. Et quelquefois, il faut aussi vraiment être ouvert à accepter ces invitations parce que ça donne un contexte de conversation, de compréhension, d'explication des choses. Et ce que j'aime ici, il invite à Philippe monter, s'asseoir avec lui. Tu vois cette communion fraternelle. On est assis ensemble sur le char. Et là, c'est cuit pour l'Éthiopien à partir de ce moment-là. Hein, parce que, tu vois, il y a l'amitié, ils sont assis, ils sont bien. Et après, on voit qu'il pose la vraie question. Verset 34. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et donc ça, c'est le grand moment. Parce que toutes nos conversations, ce n'est pas la théologie, c'est de parler simplement de Jésus-Christ, d'une personne, et ce que je connais de Jésus, et ce qu'il a fait pour moi. C'est simple, parle de Jésus-Christ. Philippe ici, il dit, mais quelle opportunité, je vais parler de Jésus. Hein? Il parle de Jésus. Alors Philippe ouvrit la bouche, verset 35, commençons par ce texte, et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. De Jésus. Il a commencé par le texte, bien sûr. Il était beaucoup aidé hein, avec Ésaïe 53. Peut-être on peut juste voir ça, quelques passages. Parce qu'il parle, il lisait déjà au sujet de cet agneau. Et dans nos églises ici, les gens ils parlent de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais est-ce que les gens connaissent qui est l'agneau aujourd'hui? On a tellement, oh l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est cet agneau de Dieu? Et est-ce qu'on sait l'efficacité qu'il ôte mon péché? J'expérimente cette libération du péché. J'expérimente cette libération du péché. Hein? Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et verset 4 d'Ésaïe 53, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, car il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et je suis sûr que Philippe, il a annoncé cette réalité pratique que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par cette croix que nous avons, qu'on peut être guéri, délivré, pardonné. Et c'est ça le message. Ah, c'est le voilà, c'est en sophrologie, en hypnotisme, machin. D'accord, tout ça, il ne faut pas juste tout attaquer totalement, mais d'accord, vous gardez ça. Mais je vais vous dire une chose, si tu veux vraiment être délivré, guéri, il y a quelqu'un qui a payé le prix, et c'est par le sang de Jésus, et tu peux être guéri, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et on n'a pas besoin d'être agressif, on a besoin de proclamer le sang de Jésus et la réalité des choses. Et les gens, ils vont écouter, ils vont écouter. Et il faut prier qu'on ait, comment je peux dire, que Dieu accompagne l'annonce de l'évangile avec une puissance. Mais les gens, ils sentent, vous savez que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne croyez. Que quand vous êtes chez les gens, ils ressentent quelque chose. Le Saint-Esprit en nous. Et il y a une puissance beaucoup plus grande en vous que vous ne croyez. Donc il a annoncé la bonne nouvelle. Il a parlé de Jésus. Et après, ils continuaient leur chemin. Et c'est l'Éthiopien lui-même qui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alléluia. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé pour ceux qui ne sont pas baptisés par immersion? Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? C'est lui, il était déjà un juif prosélyte. Il était circoncis. Mais il ne connaissait pas la plénitude de Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas l'évangile. Et tout d'un coup, voilà, avec l'annonce de l'évangile, il comprend qu'il y a plus que la circoncision d'enfant. Il y a plus que juste quelque chose à l'enfance. Il y a une vraie immersion dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et il voit de l'eau et il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe dit, voilà, je vais te dire, la seule chose qui peut t'empêcher d'être baptisé, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et donc, mais là, ce n'est pas le cas pour ce gars. Parce qu'il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'Éthiopien répondit, c'est magnifique, hein, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je pense qu'avec cette phrase, quand je pense aux millions de chrétiens maintenant en Éthiopie, j'ai dit toute cette multiplication a découlé de cette confession de ce gars-là. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, une personne qui déclare Jésus Fils de Dieu, une personne qui croit, quelle explosion, quelle possibilité ça lance dans le monde. Et peut-être toi, tu verras pas beaucoup de fruits. Mais peut-être tu parleras à quelqu'un et lui, il va déclencher un tsunami de foi. C'est ce que cet Éthiopien a fait des centaines d'années après. Voilà, il faut voir l'Éthiopie maintenant. Je crois. Tu vois cette foi, je crois. Si tu emmènes une personne à la foi, quelle victoire, quel potentiel ça contient. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'ordonné d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'Éthiopien, et ils le baptisaient. Alléluia. Et après, il y a une sorte de, je ne sais pas, il y a Philippe qui disparaît, il est transporté. Il faut m'expliquer ce miracle, c'est incroyable. Il disparaît et il dit, l'Éthiopien, hein, il dit, il ne vit plus Philippe, mais joyeux, il poursuivait son chemin. Et peut-être on peut terminer avec ça. Même si on est sur ce chemin désert, joyeux, 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 il poursuivait son chemin. Parce que c'est le chemin que Dieu nous a donné. Si tu es sur le chemin désert, si tu rencontres un Éthiopien sur ce chemin, tu peux poursuivre ce chemin joyeux. Peut-être ton chemin est désert. Mais saisis l'opportunité de rencontrer l'Éthiopien sur ce chemin. Et joyeux comme l'Éthiopien, tu poursuivras ce chemin. Et Dieu prépare. Il prépare beaucoup de gens dans ce pays. Il faut aller à leur rencontre. Et il faut laisser Dieu construire l'Église comme lui, il le voit. Quelquefois, il va te transporter. Ça ne sera plus toi. Tu serais évacué. Peut-être il a enlevé Philippe parce qu'il dit, tu vas abîmer. Tu vas l'emmener dans ton réveil là. Et donc, je t'enlève pour qu'il puisse lui-même créer quelque chose avec la plénitude du Saint-Esprit. Laisse-le rentrer en Éthiopie avec la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, Dieu, laisse Dieu faire. Quelquefois, il fait des choses tellement différentes que nous. Mais c'est beau. Mais je termine en disant, voilà, peut-être vous êtes sur un chemin désert. Mais soyez attentifs pour rencontrer l'opportunité de Dieu. Et joyeux, vous pouvez continuer votre chemin. Je vais prier. Seigneur, merci pour nous tous ici, missionnaires, ce matin. Quelquefois, on est avec les foules, les baptêmes, les effusions, mais pour beaucoup d'entre nous, la France est notre chemin désert, Seigneur. Mais sur ce chemin désert, aide-moi, même cette semaine, à rencontrer mon Éthiopien. Aide-moi à rencontrer les gens préparés. Ce n'est pas à moi de préparer les gens, mais je suis juste d'accord de poursuivre mon chemin pour rencontrer la personne que tu as préparée. Et Seigneur, ça me libère de tout devoir. Je peux juste obéir. Et Seigneur, dans ma famille, dans mon entourage, dans la rue, Seigneur. Et Seigneur, je veux poursuivre mon chemin joyeux, avec cette attente, avec cette foi. Et Seigneur, qu'on puisse voir des personnes baptisées parce qu'ils croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, merci Seigneur, que ta bénédiction soit tout le monde ici ce matin. Au nom de Jésus, Amen.